Pour la revue de presse des Hebdo, on accueille Arlette dans les studios. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Le 1 interroge comment stopper la colère.
Les manifestations du 1er mai l'ont encore montré. Le fleuve de la colère ne rentre pas dans son lit, il continue d'inonder le pays, précise Éric Fotorino dans son Zakouski. Avant d'aller plus loin, un peu de sémantique avec le mot de Solé intitulé « grrrr » qui précise « Encore faut-il distinguer entre colère noire et colère feinte, colère sourde et colère aveugle. Paradoxalement, c'est lorsqu'elle est joyeuse et bon enfant que la colère fait mouche. On est frappé par les slogans inventifs et rigolards du genre, sur la pancarte brandie par une petite vieille, « Si on avait voulu se faire baiser par le gouvernement, on aurait élu Brad Pitt. » Mais pour Lydie Salvaire, écrivaine, il est des colères rances, des colères hideuses, des colères fielleuses, ivres de destruction et avides de vengeance, des colères sourdes à toute raison et qui ne font qu'ajouter de la haine à la haine. Anne-Laure Delatte, économiste, justifie nos colères. Les aides aux entreprises qui doublent, alors que les dépenses publiques pour l'éducation n'ont, elles, pas évolué. L'État, devenu un acteur économique au service du marché, demande désormais de l'efficacité à l'éducation, à l'hôpital, à l'ensemble des services publics, mais privilégie la compétitivité des entreprises et distribue des aides aux entreprises sans aucun critère de sélection. Le 19 mai prochain paraîtra un essai signé par le meneur de la CFDT, Laurent Berger, où il avance des propositions pour améliorer la vie des salariés qui s'est globalement détériorée malgré les sacrifices consentis durant l'épidémie du Covid et les discours sur le monde d'après. Alors c'est à retrouver dans un entretien sur le poster.
La colère encore dans Télérama.
Mais oui, elle n'est pas feinte celle-là. Celle des féministes qui constatent « la guerre contre les femmes est déclarée ». On pensait que MeToo avait changé la donne. C'est le contraire qui semble se produire. Remise en cause de l'accès à l'IVG, paroles déconsidérées, violences sur les réseaux sociaux. Partout, les droits des femmes reculent. À l'ONU, pour le secrétaire général Antonio Guterres, les progrès réalisés au fil des décennies s'évanouissent sous nos yeux. Le patriarcat contre-attaque, mais nous ripostons. Combative, cette déclaration émanant d'une instance de paix fait froid dans le dos. Dans le sillage encore brûlant de la bataille MeToo, menée depuis 2017, 5 années seulement auront suffi à traîner le mouvement dans la boue. Là où la démocratie recule, là où les droits humains reculent, ceux des femmes régressent en premier. Marie-Cécile Nave, essayiste, appelle à la vigilance, comme le faisait déjà en 1974 Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Le danger est encore plus violent aux États-Unis. Pour Suzanne Faludi, qui écrivait déjà en 1992, le blacklash a ouvert les yeux aux femmes sur les forces qui les menacent. Blacklash, tu sais ce que ça...
Pas du tout.
Eh bien...
Dis-nous tout, Arlette.
Alors, blacklash, on peut traduire ça par contre-coup. Et c'est généralement le reflet d'un ressentiment normatif, plutôt qu'un déni de son existence, quand même. Alors, 32 ans plus tard, Suzanne Faludi répond à Muriel Serre dans le dossier. Le féminisme contemporain a passé un pacte diabolique avec la culture de la célébrité. Il est clair que le grand discours sur l'égalité des sexes n'était qu'un mensonge et que les Américains ne peuvent compter sur la seule Cour suprême pour garantir leurs droits. Que les Américaines, pardon, ne peuvent compter sur l'égalité des sexes, sur la Cour suprême pour garantir l'égalité de leurs droits. Nous devons maintenant faire inscrire l'amendement pour l'égalité des droits, IRE, dans la Constitution. Aux États-Unis comme ailleurs, aucune conquête féministe n'est gravée dans le marbre et il nous faut rester constamment vigilantes. Alors justement, que reste-t-il des colères passées? Le Larzac ou mai 68 sont gravés dans l'histoire. Les grèves de 1948, la loi Marcellin, beaucoup moins. L'historien Philippe Artière explore la mémoire collective des luttes sociales. Il constate que le Larzac est certes synonyme de résistance, mais les résistances d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles d'hier. C'est à lire dans la chronique « Penser autrement ». En 2019, Adèle Hanel déclarait à Madame Figaro « Si être en colère, c'est ne pas vouloir se résigner et refuser d'adouber le monde qui nous écrase, alors oui, je le suis. » Cette semaine, Télérama fait le portrait sans retouche d'une jeune femme en lutte, Adèle Haenel, qui n'a pas tourné depuis 4 ans rond avec le cinéma pour mettre en accord ses convictions et ses actes par rapport à d'autres actrices engagées comme Delphine Seyrig ou Simone Signoret. Elle ne se positionne pas en tant qu'artiste ou intellectuelle en soutien, mais comme militante de base, remarque l'historienne du 7e art Hélène Fleckinger. Valérie Hurier, directrice de la rédaction de Télérama, explique « Nous avons pris la liberté d'enquêter sur Adèle Haenel et d'interroger son parcours. Nous lui laissons la liberté d'y répondre. Alors aujourd'hui, elle répond et elle écrit à Télérama. J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Alors je vous invite à lire la suite de sa lettre en page 31.
On retrouve Adèle Haenel au sommaire de l'Express.
Derrière le radicalisme chic, l'inquiétant virage marxiste. Le titre de l'édito, signé Thomas Mahler, donne le ton de l'accueil fait par l'hebdo plutôt libéral, on va dire, oui. À la lettre envoyée à Télérama et en conteste le fond. Je cite « Le virage communiste de l'actrice qui vient d'annoncer son retrait très politique du cinéma est symptomatique d'une jeunesse occidentale pour qui le capitalisme serait la source de tous les maux. Qu'importe si la révolution industrielle a débouché sur une spectaculaire réduction des écarts entre hommes et femmes en termes de revenus ou d'accès à l'éducation. De la même façon, aux yeux d'une partie des jeunes militants écologistes, c'est le capitalisme qui serait le principal responsable du réchauffement climatique et de la dégradation environnementale. Qu'importe si des régimes collectivistes, comme ceux de l'URSS ou de la RDA, présentent des bilans calamiteux en matière de pollution. Qu'importe si la Chine, toujours entre les mains d'un parti communiste, émet aujourd'hui 30% des émissions mondiales de CO2. Face à un monde complexe, il est plus facile de s'en prendre à un ennemi unique. Le chroniqueur, Gérard Bronner, lui, élargit cette tentation anticapitaliste aux étudiants en général. Je le cite lui aussi, « On trouve toujours des rebelles d'amphithéâtre. » Rebelles d'amphithéâtre, c'est joli ça.
Ah oui, très.
« Pour souffler sur les braises de la frustration, en espérant en voir jaillir la flamme du grand soir. » Alors quittons les amphis pour l'école. Dans le même hebdo, Elisabeth Badinter, dans un grand entretien, répond à Amandine Hiroux et Éric Scholl. Elle est en colère contre pratiquement tout ce qui se passe dans l'école aujourd'hui. « J'ai l'impression, encore une fois, dit-elle, de faire partie d'un camp minoritaire et que les générations montantes s'attachent peu à peu à défaire ce trésor que nous avions entre les mains. »
Tiens Arlette, est-ce que tu as repéré quel type de colère hérissait les plumes du canard enchaîné cette semaine?
Eh bien écoute, rien que sur la une, sur les 10 titres, j'en ai repéré 4 qui ont de quoi nous mettre en rogne, peu ou prou. Alors, Ligara, Bachar revient parmi les siens. Qui encore peut se liguer contre un homme qui a destiné son peuple à la boucherie, hein, on se le demande. Russola trionteuse, oubliez les démarches de Le Pen elle-même pour obtenir un prêt d'une banque russe pour son mouvement. Et puis, la manif était en noir, alors que la moindre tentative de casserolade donne lieu à des arrêtés d'interdiction préfectoraux, 500 militants de l'ultra-droite ont pu défiler peinards le 6 mai dernier dans les rues de Paris, tous vêtus de noir, encagoulés pour beaucoup, arborant des symboles néo-nazis. Parmi eux, selon Mediapart, deux proches de Marine Le Pen, Axel Lousteau et Olivier Duguay. Et enfin, la sonnerie du fils Frédéric dans la famille Arnault, PDG d'une fabrique de montres de luxe. Pour lui, son dernier modèle, à 6 500 € quand même, n'est pas seulement destiné aux jeunes collectionneurs, mais à tous les jeunes. Bah évidemment.
Les Turcs sont-ils assez en colère contre Erdogan pour le dégommer dans les urnes dimanche prochain? Les analyses de la presse étrangère dans Courrier International.
À la une, page 28, un titre. Pourquoi Erdogan peut perdre? L'introduction de Claire Carrard. En 20 ans, Erdogan a marqué de son empreinte la vie politique turque avec une nette dérive autocratique dans son exercice du pouvoir. Arrestations arbitraires, droits des minorités bafoués, liberté de la presse en net recul. Si les sondages donnent pour le moment un léger avantage au candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu, le vote s'annonce serré, très serré. Près de 600 000 militaires et membres des forces de l'ordre devraient être déployés dans l'ensemble du pays le jour du vote. Alors, pour éviter toute manipulation ou pression, des centaines de milliers d'assesseurs ont été formés par l'opposition. Cela suffira-t-il à garantir la transparence du scrutin? C'est l'une des nombreuses questions de cette élection.
Et les taureaux étaient frustrés la semaine dernière, t'avais squeezé leur horoscope au profit des sagittaires. Alors les mets pas en colère s'il te plaît, donne-leur les conseils de Rob Brezny.
Un célèbre entraîneur de football expliquait que sa principale méthode consistait à amadouer, manipuler, voire intimider ses joueurs pour les pousser à faire des choses qu'ils n'aiment pas faire. Pourquoi? Eh ben, pour affermir leur ténacité et leur volonté et les aider ainsi à accomplir des exploits. La bonne nouvelle pour toi, taureau, c'est que tu en as presque fini avec les choses qui t'ennuient. Ces prochaines semaines, tu seras bien plus libre de te concentrer sur ce qui t'emplit de joie.